Eh bien, bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. C'est l'édition du vendredi 12 octobre 2018. C'est Hélène Bédard qui vous parle et avec moi en studio, Francine Forget. Bon matin, Francine.
Bonjour, Hélène.
Ça va bien, madame?
Très, très bien. Et vous?
Ah, excellent, excellent.
Bon,
le froid,
c'est bon.
Le froid nous apporte rien que d'un coup de vent ici.
Oh,
on est bien.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et on arrive ici, on est réveillé, on est en forme, on est prête.
On est très, très prêts, oui.
Oui. Comme jamais.
Comme jamais, oui.
Comme jamais.
On va distribuer. Ah, oh, la régie, nous avons l'excellent Maurice Bolduc. Bon matin, Maurice.
Bonjour.
Bonjour. Et voilà, alors nous allons y aller avec la présentation de nos sujets. Rapidement, Francine, vous allez nous parler de...
En première partie, je vais parler d'école, beaucoup. Je vais parler aussi de bactéries. C'est des textes un petit peu plus longs que je vais peut-être lire en deux parties parce que je pense que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de ces articles et non pas de les résumer. Et par ailleurs, j'aimerais bien jouer avec vous au jeu des mots. Vous avez trouvé quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle beaucoup sur l'Internet à propos de l'étymologie, l'origine des mots. Et j'espère qu'on aura le temps,
oui.
Hélène, de partager
oui.
ces trouvailles parce que c'est extrêmement intéressant.
Je vais jouer.
OK, on y va.
Et de mon côté, moi, je vais vous parler de prévention, d'assurance vie et également de CHSLD. Alors, nous vous revenons dans un petit moment. Alors voilà, Hélène Bédard de retour au micro. Je vais vous parler d'un texte que j'ai trouvé dans une de mes revues Chouchou, Virage, et c'est « Mordez à belles dents dans la prévention ». Un texte de Sophie Gagnon. En vieillissant, plusieurs personnes donc, considèrent que ça ne vaut plus la peine de prendre soin de leurs dents ou de prothèses, ni de leur bouche. Grave erreur, dit Rachel Baudry, porte-parole en matière d'aînés à l'Ordre des hygiénistes dentaires. Elle nous livre 5 faits mordants sur la santé bucco-dentaire afin de nous inciter à sourire aux bienfaits de la prévention. Une mauvaise santé bucco-dentaire peut mener à des problèmes de santé potentiellement graves, dit-elle. Madame Baudry a été hygiéniste pendant 40 ans, notamment auprès d'une clientèle aînée. Donc, je crois que son opinion compte. L'état de santé bucco-dentaire des aînés hébergés en CHSLD, dit-elle, est lamentable. Il n'y a pas d'hygiéniste dans les équipes de soins et la santé des aînés est souvent problématique déjà à leur arrivée en CHSLD et s'empire au fil des mois, d'autant plus que la perte de poids est souvent observée chez plusieurs de ces aînés. L'accès aussi aux soins bucco-dentaires est problématique chez les aînés à mobilité réduite. Il existe très peu de services ambulatoires en denturologie et en dentisterie. De plus, un travail de prévention et de dépistage en amont, en domicile et en résidence n'est pas possible présentement, puisque au Québec, les hygiénistes dentaires n'ont pas leur autonomie professionnelle et ne peuvent donc pas pratiquer sans la présence d'un dentiste. Saviez-vous que par le biais de la politique des besoins spéciaux, certains aînés à faible revenu hébergés en CHSLD peuvent obtenir gratuitement des soins et des prothèses dentaires suivant certaines normes? Ceci devrait être publié plus grandement que cela. 95%, dit-on, des cas de mauvaise haleine sont liés à un manque d'hygiène bucco-dentaire. Il y a, dit-elle, beaucoup d'éducation à faire concernant l'entretien de toutes les formes de prothèses. Je vais vous donner quelques chiffres à faire grincer les dents, puisqu'on parle de dents. 63% des 65 ans et plus accordent une importance à leur hygiène bucco-dentaire. Ça, c'est bien. 20% des Québécois ne possèdent plus leurs dents naturelles. Ça veut dire 1 sur 5. 11% des prothèses de dentaire ne les nettoient jamais en profondeur. Parlons des prothèses. Tout le monde le sait, on doit se brosser les dents 2 fois par jour et passer la soie dentaire quotidiennement. Mais qu'en est-il lorsqu'on porte des prothèses? J'ai ici un petit jeu questionnaire à vous soumettre. À quelle fréquence doit-on brosser ses prothèses dentaires? Une fois par jour? Une fois par semaine? Ou jamais? La réponse est une fois par jour. À quelle fréquence doit-on retirer les prothèses dentaires et les faire tremper dans l'eau tiède pendant une nuit? La réponse est chaque soir. Doit-on désinfecter les prothèses dentaires dans une solution adaptée disponible en pharmacie? Non, l'eau tiède suffit. Oui, une fois par mois. Ou oui, une fois par semaine. Ben, la réponse est oui, une fois par semaine. Est-il possible de brosser aussi la langue et l'intérieur des joues? J'essaie d'entendre votre réponse. La réponse est oui. Lorsqu'on n'a plus de dents naturelles, il n'est plus nécessaire de consulter une hygiéniste dentaire au moins une fois par année. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
Bon, j'ai les réponses en studio. L'utilisation d'une brosse et d'un dentifrice spécialement conçu pour les prothèses est suggérée. Dans le cas des prothèses partielles, il faut bien sûr brosser les dents naturelles restantes deux fois par jour et utiliser une soie dentaire. On doit utiliser un contenant de plastique réservé à cet usage le matin. On le rince soigneusement et avant de les remettre, puis on vide le contenu. On brosse les prothèses, on les met dans une solution, on rince les prothèses et ensuite, on jette la solution désinfectante. Ne la gardez pas pour une autre fois. Alors écoutez, j'étais un court texte de Sophie Gagnon, mordez à belles dents dans la prévention, dans Virage. On poursuit avec Francine Forget.
Oui, et je vais vous lire un texte de votre Noémie Mercier. Je sais que c'est votre auteur chouchou.
Oui.
Je vous remercie, Hélène, de me laisser l'occasion ce matin de lire une de ses productions. En fait, c'est dans la chronique « Société, des gaz et des filles »,« Méritocratie, mon œil », c'est dans l'actualité du mois d'août. Les filles les plus brillantes à l'école ont moins de chances d'être convoquées en entrevue que les gars les plus médiocres. Pourquoi donc? On s'en doutait un peu, hein? Une nouvelle cohorte prépare son entrée à l'université et cette année encore, les filles seront majoritaires dans presque toutes les facultés. Elles obtiendront dans l'ensemble de meilleures notes que les garçons et seront plus nombreuses à terminer leurs études. Parmi les femmes âgées de 25 à 34 ans, 43% possèdent un diplôme universitaire contre seulement 27% des hommes du même âge, selon l'Institut de la statistique du Québec. Ce déséquilibre, qui n'est pas unique au Québec, suscite à intervalles réguliers des cris d'alarme sur le retard scolaire des jeunes hommes et leurs perspectives d'avenir déclinantes. Mais avant de conclure à la déroute des garçons, serait sage de se demander si leurs résultats scolaires se répercutent sur leurs débouchés professionnels et si la supériorité des filles à l'école donne à celles-ci une longueur d'avance quand vient le temps de décrocher un emploi. Qu'en pensez-vous, Hélène?
Je suis assez d'accord avec
le... Vous êtes pas mal d'accord, alors on continue si vous êtes d'accord.
Oh oui.
Ce sont les questions que pose la sociologue Natacha Cadelin, qui est professeure à l'Université d'État de l'Ohio, dans une étude publiée en avril dernier dans American Sociological Review. Selon Sophie à ses travaux, les jeunes hommes peuvent dormir tranquilles. Leur place sur le marché du travail n'est aucunement menacée. La chercheuse a créé de fausses candidatures en réponse à 1053 offres d'emploi véritables partout aux États-Unis. À chaque employeur, elle a soumis deux CV fictifs, ceux d'un garçon et d'une fille fraîchement diplômée, en faisant seulement varier leur rendement scolaire. Autrement, les deux profils étaient semblables. Même université, même stage et activités parascolaires, mêmes aptitudes pour les langues et l'informatique. Puis, la sociologue, a attendu les réponses téléphoniques et les convocations en entrevue d'embauche. Ce qu'elle a découvert est sidérant. Pour les garçons, les notes ne changeaient pas grand-chose à leur chance de recevoir un coup de fil ou un courriel de l'employeur. Les cancres s'en tiraient à peu près aussi bien que les plus forts. Chez les filles, c'était plus complexe. Les étudiantes moyennes étaient certes plus susceptibles d'être convoquées en entrevue que les mauvaises, mais les meilleures étudiantes, celles ayant accumulé une moyenne de A, ont nettement moins d'appels que les filles moins douées qu'elles. Plus une candidate leur paraissait sur le papier agréable, sincère et sensible, plus ils étaient disposés à lui donner sa chance. Ni son savoir-faire, ni son ardeur au travail n'entraient dans l'équation. Alors, je vais poursuivre après la pause ce texte de Noémie Mercier. sur les candidats et candidates quand ils arrivent sur le marché du travail.
Merci beaucoup, Francine.
Cherche à comprendre, cherche pas à chercher. Tu veux te défendre, faudrait d'abord être en danger. J'ai une version en couleur, une version noir et blanc, qui donne des chaleurs à ton cœur d'adolescent. Gemini s'est mis à poudrer son nez. J'ai écrit à Bert clou dans les pieds. 2000 ans après, c'est encore de ta faute. Ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Pour 3 millions d'années, une photo de ta grand-mère, le crucifix, le
Hubert Lenoir, JC.
Merci beaucoup, Maurice. Et nous poursuivons avec Francine Forget et la suite de son très intéressant texte.
Oui, alors c'est Noémie Mercier, je rappelle, qui le signe dans l'actualité du mois d'août 2018. Alors, je fais le raccord avec la première partie qui a été lue juste avant la chanson. Plus une candidate leur paraissait sur le papier agréable, sincère et sensible, plus ils étaient disposés, alors on parle évidemment des employeurs, à lui donner sa chance. Ni son savoir-faire, ni son ardeur au travail n'entraient dans l'équation. Malgré leur A étincelant, ces diplômés ES n'ont obtenu de réponse que pour 9 % des emplois auxquels elles avaient postulé. C'est presque deux fois moins que les garçons au rendement scolaire identique, 16 %. En fait, c'est même inférieur au taux de succès des garçons les plus faibles, 12 %. Vous avez bien lu, je devrais dire, vous avez bien entendu, les filles les plus brillantes à l'école ont moins de chances d'être convoquées en entrevue que les gars les plus médiocres. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête des employeurs, Natacha Cadelin a approfondi ses recherches. Elle a fait parvenir ses fausses candidatures de finissants à 261 personnes du monde des affaires qui prennent des décisions d'embauche dans leur entreprise. Pour chaque CV, les répondants devaient dire s'ils seraient prêts à convoquer la personne en entrevue. Ils devaient aussi évaluer ses traits de caractère. Plus ils trouvaient un jeune homme compétent et dévoué sur le papier, plus ils étaient enclins à lui faire passer un entretien. Mais cette logique ne tenait pas pour l'autre sexe. Pour juger du potentiel d'une fille, les recruteurs tenaient compte d'une seule et unique dimension, son amabilité. Plus une candidate leur paraissait sur le papier agréable, sincère et sensible, plus elles étaient disposées à lui donner sa chance. Ni son savoir-faire, ni son ardeur au travail n'entraient dans l'équation. C'est quand même inquiétant, n'est-ce pas?
Très inquiétant, on dirait que ça ne change pas avec les années.
Oui, les choses se sont clarifiées davantage lorsque la sociologue a demandé aux répondants d'expliquer leur décision en quelques lignes. Pour justifier leur rejet des filles les plus performantes, les recruteurs exprimaient des réserves sur leur qualité humaine. À leurs yeux, ces étudiantes modèles semblaient trop confiantes, pas vraiment chaleureuses, hautaines. À l'inverse, ils citaient toutes sortes d'excuses pour justifier de convoquer un garçon malgré ses piètres résultats. Ces notes laissent à désirer, mais il est impliqué à l'école. Il pourrait être motivé à devenir un très bon employé, par exemple. C'est dire... Encore aujourd'hui, les jeunes femmes se butent à un monde qui donne volontiers le bénéfice du doute aux plus médiocres des hommes, mais qui leur refuse à elles le mérite pour ce qu'elles ont objectivement accompli. Un monde qui trop souvent perçoit leur intelligence comme de la froideur et de l'arrogance. Un monde qui valorise leur gentillesse plus que leurs compétences. Alors voilà ce texte de Noémie Mercier dans l'actualité. Alors il dit tout, je n'ai rien à ajouter.
Merci. Pour faire suite à ce document, en fait, il n'y a pas de lien à faire. Moi, je voulais vous parler des multiples des assurances-vie qui nous sont proposées, nous, les 50 ans et plus. Avec les années, il semble qu'il devient de plus en plus difficile de découvrir une assurance-vie digne d'intérêt. Il y a des entraves médicales qui rendent l'aventure très houleuse. Les besoins sont aussi bien différents à 50 ans et plus. On veut garantir un renfort de qualité pour nos enfants, nos petits-enfants. On veut fortifier notre contribution future auprès de notre famille et voir à nos dettes et couvrir les dépenses reliées surtout à notre enterrement, hein, à nos obsèques. À qui s'adresse l'assurance-vie sans examen médical tant attendu? Après avoir essuyé quelques refus auprès d'assureurs ou de compagnies, vous serez aiguillé inlassablement vers ce choix. Ne prenez pas cette route en premier. Décidez d'emprunter ce chemin seulement si, après avoir épuisé toutes les avenues. Premièrement, sachez que l'assurance-vie 50 ans et plus a une grande publicité qui entoure la popularité, mais ce n'est pas toujours l'option la plus abordable et valable. Il y a l'assurance-vie temporaire aussi, qui peut s'avérer la meilleure solution pour vous. Les primes sont plus basses que les assurances-vie. Vous économisez certainement en la choisissant. Au moment de contracter cette assurance-vie, un diagnostic médical sera fait. À chaque renouvellement de votre police, vous serez donc réévalué aussi. Mieux vaut prendre une période plus longue, sinon les coûts augmentent. Elle se transforme en assurance-vie permanente en tout temps, sans devoir passer de tests médicaux, et cela jusqu'à 70 ans. Et l'assurance-vie permanente, elle, avec des primes fixes, augmente avec l'âge. Cette assurance permet évidemment de laisser un important héritage. Dans ce cas, la valeur de rachat, imaginez, ce n'est pas assujetti à l'impôt. Ça, c'est peut-être le côté le plus agréable. Maintenant, allons voir les frais funéraires qui sont évidemment reliés à notre fin de vie. Ça augmente d'année en année. Même en diminuant les coûts reliés à votre départ, cela reste un exploit que de dépenser sous la barre des 4 500 $. En additionnant les coûts pour vos futurs obsèques, on remarque que ceux-ci deviennent rapidement démesurés et entraîneraient vos proches dans une situation financière précaire. Il y a deux alternatives pour vous assurer de ne pas laisser votre famille dans l'embarras lors de vos funérailles, des préarrangements funéraires et une assurance-vie des derniers frais. Vous payez la note au complet des préarrangements funéraires et vous payez des primes mensuelles pour l'assurance-vie des derniers frais. La seconde méthode est bien sûr une assurance-vie, comme je disais, des derniers frais. Elle amortit l'impact financier que peut occasionner votre départ et ne coûte pas trop cher tous les mois. En général, c'est sous la barre des 20 $. Ne tombez pas dans le panneau des compagnies funéraires. Eux, ce sont des spécialistes pour manipuler les sentiments des survivants. Ils réussissent très souvent à leur soutirer des sommes prodigieuses. Prenez le temps de bien comparer toutes les avenues existantes. J'ai un autre volet de comparer les assurances-vie que je vous lirai à un autre moment parce que le dossier est assez lourd. C'est un dossier qui vient de Daniel Nadeau, octobre 2018, et ça s'appelle les comparer assurances-vie sur un volet, sur un site Internet.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
نفس الشمس بتشرق علي وعليك نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني
Até sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade, vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
La grande ville nous a plongé dans sa cohue. Dehors, y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus.
Voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois.
Non.
Ekta hi param dharma hai, isse bada na koi.
La formation Lamo Mali, solidarité.
Merci beaucoup Maurice. Nous voici de retour après cette courte pause et je vais laisser Francine s'amuser avec son jeu questionnaire étymologique.
Ben oui, on va commencer par une petite drôle, je dirais. Hélène, est-ce que vous avez des plantes vertes dans votre chambre?
J'ai des plantes vertes chez moi. Moi, c'est tout un appartement ouvert. Alors,
donc,
les plantes vertes sont
ça
partout.
Empiète un peu sur la chambre.
Oui, un peu partout.
Alors, voici ce qu'on dit dans Étymologie, mots et expressions bizarres, relevé sur le site internet nikibar.com. Une plante verte dans la chambre, ce n'est pas sain, dit-on. On a souvent entendu dire ça. La nuit, la plante rejette le gaz carbonique et absorbe l'oxygène. Semble-t-il que c'est vrai? Cependant, le rapport entre ce que recrache une plante verte la nuit en gaz carbonique et ce que votre conjoint peut causer comme dégâts à votre espace vital penche irrémédiablement en faveur de la plante. Donc, vaut mieux virer votre conjoint de votre chambre et garder la plante qui, elle au moins, ne ronflera pas. Alors, c'est pas moi qui le dis, là. Je ne fais que lire le texte que j'ai sous les yeux qui est pris à même le site nikibar.com.
On vous pardonne. On pardonne.
Alors, j'en aurai d'autres pour tantôt.
Fort bien. Fort bien. Alors voilà, de mon côté, nous avons quelques petites nouvelles brèves. Moi, j'ai ici une nouvelle qui vient de La Tribune, écrite par Tommy Brochu. C'est le 6 octobre 2018. Madame est centenaire et toujours chez elle. Je peux pas vous dire comme je vous remercie. C'est gros, gros, gros avec tout mon cœur. Visiblement, je rechète Brochu Genet, centenaire depuis peu, était contente de recevoir la visite de deux agents du service de police de Sherbrooke. C'est que depuis une dizaine d'années, la dame profite du programme PAIR, P-A-I-R, ce qui la sécurise beaucoup. Ce programme, initié il y a plusieurs années à Sherbrooke, lance des appels automatiques à des personnes âgées qui vivent seules et qui veulent demeurer dans leur maison. Si elles ne répondent pas, des proches ou des agents peuvent aller les voir si tout va bien. Alors, elle se considère chanceuse de pouvoir rester chez elle. « Je ne suis pas prête à partir, » dit-elle. « Ça ferait longtemps qu'il le voudrait. Le docteur me l'a dit. » Mais je pense que je ne serai jamais prête à partir. Ça fait 45 ans que je demeure ici. Je suis restée 10 ans dans le bloc à côté. Et elle peut compter sur sa fille qui demeure dans le secteur de Roqueforest. C'est un très, très grand service, décrit-elle. Tu te sens en sécurité. Si ma fille part en voyage, le service m'appelle à 10 heures le matin et à 19 heures le soir. J'attends toujours ses appels. Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. La fille de Mme Brochu, elle aussi, est satisfaite. Je l'appelle le matin pour voir si tout ça va. Et avec le programme, lui, l'appelle le soir. Si je dois partir en vacances, je sais que quelqu'un va venir la voir s'il se passe qu'elle ne répond pas au téléphone. À cet âge, on n'a plus de misère. On pense de jour en jour que c'est normal. Depuis que je l'ai enregistré sur le programme PAIR, je trouve que c'est merveilleux. Je viens assez souvent voir si tout va bien. Je fais ses commissions et les déplacements se font, mais un peu plus tranquillement avec elle. La dame a même pu recevoir, attention, le message d'une vedette, le porte-parole du programme qui s'appelle Michel Louvain. Et franchement, je n'arrête pas de recevoir toutes sortes de choses. C'est pas drôle d'avoir 100 ans. Je l'aime, lui. Je le connais pas intimement, mais on l'a connu quand il a commencé à chanter. J'en reviens pas comme le monde est généreux, souligne-t-elle, visiblement touchée par le geste de ce populaire chanteur. Alors, c'était un texte de Tommy Brochu, une petite brise de fraîcheur. Centenaire est toujours chez elle. Nous allons devoir vous quitter momentanément. Restez avec nous, s'il vous plaît. Nous vous revenons après cette courte pause. L'émission des Voix de service magazine se poursuit. Alors voilà, nous sommes de retour. Merci d'être resté à l'écoute. Je sais que vous êtes tous là. Alors merci à Maurice, merci à Francine d'être près de moi. Et je lui laisse de rechef la parole.
Oui, alors je vous avais annoncé en première partie d'émission que je parlerais des bactéries. Mais en fait, on n'a pas eu le temps. On a été pris par les jeux de mots, les expressions et mots bizarres. Les bactéries, nos alliés pour vieillir beau. Alors c'est un texte de Conversation qui a été publié sur le site du même nom, l'auteur Emmanuel Percheron. Il y a 30 ans seulement, on s'extasiait devant la photo de famille avec une grand-mère au centre qui avait les cheveux gris, tenant sur ses genoux ses petits-enfants. Aujourd'hui, cette même scène ne fait rêver que s'il s'agit de l'arrière-arrière-grand-mère. À 50 ans, nos grands-mères étaient de vieilles femmes. De nos jours, la femme de 60 ans incarne la beauté mature, voire une certaine forme de jeunesse, comme en témoignent les unes de médias ou figurent des actrices ou mannequins affichant une soixantaine resplendissante. Le vieillard d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, on dit aujourd'hui, soixantaine, c'est la cinquantaine d'avant, 70 ans, c'est la soixantaine d'avant. Bref, on a fait un petit décalage de moins 10 à peu près. Oui. Hein, à partir de 40 ans, là, c'est pas mal ça. Selon une étude récente de l'INSEE, en 2050, en France, un habitant sur trois aura plus de 60 ans, contre 1 sur 5 aujourd'hui. Une petite fille sur 3, née en 2003, sera centenaire. Notre espérance de vie augmente donc et notre volonté de vieillir beau aussi. L'emprise du temps sur notre horloge biologique est toujours la même, mais grâce au progrès de la médecine, les grands fléaux ont disparu de nos latitudes. De plus, notre mode de vie a changé. L'exposition déraisonnée au soleil des années 1970 tend à disparaître. Nous surveillons notre alimentation. 5 fruits et légumes par jour, et même ici, je pense au Canada que c'est davantage. Il me semble que c'est plus que 5. Quand c'est 7?
Ça, c'est 7.
OK, peut-être que c'est 7. Nous faisons plus d'activités physiques et redevenons moins sédentaires. Tous ces changements de comportement sont étroitement liés aux avancées scientifiques qui ont permis d'acquérir une meilleure connaissance de l'impact de l'environnement sur nos fonctions vitales, sur nos organes et notre peau. Est-ce que l'environnement a des effets sur la santé? Le vieillissement, qui commence avant même la naissance, n'est pas uniquement le fait de notre horloge biologique. Il résulte aussi de l'interaction de multiples facteurs dont il est difficile d'apprécier l'influence isolée. Cet ensemble de facteurs est communément appelé l'exposome. Le terme exposome est apparu officiellement en 2015 dans le cadre de la loi Touraine. Pour la première fois, une approche multifactorielle des effets de notre environnement sur notre santé est envisagée. L'exposome regroupe en effet tous les types d'expositions que notre organisme subit tout au long de son existence. Les rayonnements ultraviolets, les fameux UV, là, la pollution, les variations extrêmes de température, exposition prolongée aux infrarouges, par exemple, les perturbateurs endocriniens, etc. L'association de ces différents facteurs contribue à précipiter le vieillissement. Alors, dans la deuxième partie, je vous parlerai de la pollution qui est effectivement un accélérateur de vieillissement.
Voilà de retour. Alors, Hélène Bédard au micro. Moi, je vais vous parler des CHSLD. C'est ici un article paru dans Le Soleil le 6 octobre 2018. Ne pas oublier les moins de 65 ans. Tiens donc, c'est un point de vue intéressant. La vie dans les CHSLD est un sujet trop sérieux pour être laissé aux seuls politiciens. Je veux vous parler plus concrètement. J'ai 45 ans, je suis lourdement handicapée et je vis dans un CHSLD depuis 2015, donc depuis 3 ans déjà. Les besoins fondamentaux, notamment se vêtir, communiquer, s'occuper, se divertir, voilà qui suppose que je comble aussi d'autres besoins, tout comme vous. J'ai donc besoin d'acheter des vêtements, de m'abonner à un forfait Internet, téléphonie, télévision, m'acheter du café, parce que j'ai besoin aussi de boire du bon café, du vin rouge de temps à autre la fin de semaine. Je passe du temps à l'extérieur des murs avec mes amis et ma famille. Nous allons au café du coin, au musée, au cinéma. Je vous épargne la mécanique de calcul visant à déterminer le montant de la contribution financière pour l'hébergement dans les CHSLD du réseau québécois. Mais sachez que je reçois une allocation mensuelle de 221 $ de la RAMQ pour combler les quelques besoins que j'ai évoqués. Or, sans l'aide financière de mes parents, qui, eux, sont âgés de 75 ans, il serait impossible pour moi de voir la fin de chaque mois et donc de garder la tête hors de l'eau. Dans la même veine, je ne peux taire la situation d'une résidente de 79 ans à mon CHSLD, atteinte de paralysie cérébrale et handicapée. Elle doit composer, elle, avec une allocation d'à peine 200 $. Elle vend même des canettes pour l'aider à payer ses titres de transport et satisfaire quelques-uns de ses besoins. C'est tout simplement scandaleux, dit-il. Elle ne fait pas partie du 5 % âgé de moins de 65 ans. Les partis politiques doivent s'engager à rehausser le montant des allocations pour tenir compte de la réalité et des besoins actuels. Pendant la campagne électorale, la coalition Avenir Québec a promis la création des maisons des aînés. Le Parti québécois s'est engagé à climatiser les CHSLD. Le Parti libéral avait promis de créer 1 500 places d'hébergement. J'aimerais rappeler que 100 % des résidents des CHSLD nécessitent dans l'immédiat, dès le lendemain des élections, de meilleurs soins pour leur hygiène, leur confort, leur dignité. Les préposés aux bénéficiaires ont aussi besoin de meilleures conditions, de plus de considération dans leur travail. Cette proposition devrait faire l'unanimité des partis politiques. Les CHSLD accueillent actuellement une clientèle très hétérogène, des cas de plus en plus lourds, et le ministère de la Santé estime sciemment le temps accordé aux tâches du quotidien. Les ressources financières et humaines sont donc insuffisantes. Je me plais à dire que les budgets font les besoins. On en demande toujours davantage aux préposés. Les ratios d'un préposé pour 10 ou 12 résidents sont monnaie courante. Ils sont dépassés par la lourdeur de la tâche. Ils sont épuisés et leur absentéisme augmente. C'est l'un des facteurs qui explique la pénurie. Cela affecte aussi la prestation des services et des soins aux résidents. Les 5 % de Guétin-Barrette traités comme une exception ne devraient tout simplement pas se retrouver systématiquement dans un CHSLD. Ce sont des gens de, et ces 5 %-là, c'est des gens de moins de 65 ans, parfois handicapés physiquement comme moi, à qui le Québec et les politiciens semblent s'être résignés dans l'indifférence générale à faire de nous des aînés avant l'heure. J'invite donc le nouveau gouvernement à s'inspirer de la démarche de Lab École, une initiative visant à créer des écoles modèles du 21e siècle à l'architecture innovante, aux espaces intérieurs conviviaux et faire de même avec les centres d'hébergement. Non seulement il faut ériger de nouveaux murs, il faut faire tomber la discrimination envers les résidents les plus jeunes, victimes de la banalisation de leurs besoins. Donc un texte de François Marcotte paru dans Le Soleil le 6 octobre dernier. Un point de vue sur le CHSLD, ne pas oublier les moins de 65 ans.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi.
Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, ne formons qu'un seul corps. Et le feu sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent
et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Éclaboussé par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat.
Mais le son de sa voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure.
Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin.
Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole,
l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
La foule revue par la formation Arcadiane.
Merci beaucoup, Maurice. Mais dites-moi, il n'y avait pas Édith Piaf qui l'avait fait?
Originellement, ben, c'est une reprise d'une chanson sud-américaine. Mais okay. Édith Piaf l'avait popularisée en français, oui.
Ah, merci. OK, merci. Voilà. Bon, voilà, nous revenons donc en studio. Enfin, nous l'étions déjà. Je laisse la parole tout de suite à Francine.
Alors oui, c'est la suite de Vieillir beau, les bactéries nos alliés. En tout cas, je ne sais pas si les bactéries nous aident, mais sûrement que... se trémousser comme on se trémoussait sur la musique qu'on vient d'entendre en studio, ouh, ça aide à vieillir beau.
Eh oui, nous avons dansé.
Oui, certainement, certainement. Alors, merci Maurice. La pollution, donc, je disais que c'était un accélérateur de vieillissement. Véritable problème de santé publique, la pollution, c'est un catalyseur de troubles pour notre organisme, connu pour ses méfaits sur la santé humaine, maladies respiratoires, cardiovasculaires, ses méfaits sur la peau, était jusqu'à récemment occulté. En sa qualité d'enveloppe corporelle, la peau subit directement les affronts du temps et de l'environnement. Le vieillissement cutané fait partie du processus général du vieillissement de l'organisme. De par son caractère visible, il en constitue souvent un marqueur précoce. Notre beauté intérieure, notre âge apparent, sont les reflets, je m'excuse, de notre âge physiologique. Les agressions liées à la pollution ont un point commun. Elles augmentent le stress oxydant dans nos cellules, avec pour conséquence un statut micro-inflammatoire quasiment silencieux responsable de l'altération de nos cellules, de nos organes et de notre peau. L'homme est un écosystème à part entière. En effet, il cohabite avec environ 100 milliards de bactéries, dont 10 millions vivent sur ses mains. Ce microbiote joue un rôle fondamental dans notre santé. Il participe à l'homéostasie du corps humain, cet équilibre qui le protège contre une invasion massive d'hôtes indésirables, les micro-organismes pathogènes. Contrairement au microbiote intestinal, le microbiote cutané a été jusqu'à récemment ignoré, voire considéré comme indésirable. Chez nombre de personnes, le lavage des mains tourne parfois aux troubles obsessionnels compulsifs. Des études récentes ont pourtant montré combien son équilibre était primordial pour la qualité de la peau et son intégrité. En raison de la pollution et de l'emploi de produits de soins corporels plus ou moins agressifs, on observe une augmentation drastique des problèmes cutanés tels que des hypersensibilités ou des dermatites atopiques se traduisant par l'apparition de rougeurs, de démangeaisons. Si on analyse alors le microbiote, on constate que celui-ci est perturbé. Dans ces zones abîmées, certaines espèces de bonnes bactéries, comme en salle, disparaissent au profit d'espèces potentiellement pathogènes. Qui plus est, des bactéries généralement présentes dans les zones hydratées migrent vers d'autres endroits, amplifiant ainsi les sensations d'inconfort des peaux fragilisées. L'homme est donc un écosystème vivant dans une écosphère potentiellement hostile. La légendaire fontaine de Jouvence pourrait demain prendre la forme d'une union harmonieuse entre l'homme, son environnement et son microbiote. Une chose est sûre, désormais vieillir beau n'est plus tout à fait une utopie. Alors, pour terminer, en fait, je vais plutôt enchaîner avec autre chose, passer de bactéries au virus. Donc, pour terminer ce texte de Conversation, qui a été publié sur le site du même nom par Emmanuel Percheron, je vais revenir à l'étymologie, les mots et expressions bizarres. Enrhumé, bisous interdit. Le mode de contamination favori du rhinovirus, c'est le contact direct ou indirect via les sécrétions nasales. Quand on se touche le nez, et qu'on donne ensuite la main, donc 10 millions, hein? On a parlé de 10 millions de bactéries.
Dans chacune de nos mains.
À quelqu'un ou qu'on touche une poignée de porte. Tout objet touché accueille des germes susceptibles de contaminer d'autres personnes lorsqu'elles se frotteront le nez ou les yeux. En revanche, le virus du rhume, contrairement à celui de la grippe, est très peu présent dans la salive ou dans la gorge. Il n'y a donc pas de danger à se faire des bisous. Alors, la source est toujours la même, étymologie, mots et expressions bizarres, sur nikibar.com.
Vous avez de la suite, Madame
Francine. On a de Francine. La suite dans les idées. C'est parce qu'on veut les éloigner.
Et bien voilà, après cette courte pause musicale, eh bien moi, Hélène Bédard au micro, j'ai une question. Et toi, comment vas-tu maintenant après toutes ces lectures?
Non, 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 mais ça va bien, ça va très, très bien. Là, je veux dire, on a éloigné les bactéries.
Parfait.
Un virus au moins. Hein, au moins un. Mais il nous en reste combien de bactéries? Peut-être 10 millions.
10 millions, j'espère.
Ben, 9 millions, 900, en tout cas. Il nous en reste pas mal.
Il nous en reste pas
mal. Oui, beaucoup.
Et c'est aussi le texte de ce que je veux vous introduire. C'est paru dans la presse, une collaboration spéciale, ce matin, de Louise Letraverse. Ça faisait plus d'une heure qu'on était au restaurant. J'écoutais avec intérêt les mules et aventures de mon ami. Il s'était acheté une villa en Espagne. Il n'avait pas pu en profiter cet hiver parce qu'il y avait eu un dégât d'eau. Et les travaux avaient été suspendus. Un conflit s'était présenté entre les ouvriers et l'entrepreneur. Il avait dû payer tout le monde en double pour arriver à ce que tout soit fini à temps pour les vacances. Mais ça ne se réalisa pas. À la dernière minute, un des ouvriers, le plâtrier, a eu un accident. Tout a été retardé. Il a donc dû louer un appartement, pas très loin de la villa, afin de surveiller les travaux. Condo très cher que sa femme a détesté. Il décida finalement de rentrer plus tôt que prévu pour sauver son ménage. Ouf! Je vous épargne les détails concernant la vie de ses enfants qui vont très mal, l'annulation du mariage de sa fille because la faillite de son fiancé, la maison que les jeunes époux devaient habiter saisie par les huissiers et dire que sa fille pensait épouser un millionnaire. Elle est toujours en dépression, sa mère aussi. J'avale donc ma pizza et j'ai hâte de lui raconter l'ordinaire d'une rose montoise qui traversa l'hiver avec quelques anecdotes amusantes à partager. L'écoute n'était pas au rendez-vous. Je l'ai encore questionné sur son implication dans une des causes qui lui tient le plus à cœur, c'est-à-dire lui-même. En quittant le restaurant, il m'a remercié pour le merveilleux moment passé ensemble avec un petit sourire dans la voix. Je lui ai lancé « La prochaine fois, je te donnerai de mes nouvelles ». Mais croyez-le ou non, il n'a même pas réagi. « À la prochaine », a-t-il répondu d'une voix suave. Cet homme vit dans une bulle qui le met à l'abri de toute interférence pouvant être provoquée par l'existence d'autres mortels. Une heure et demie à espérer le signe annonciateur d'un échange, d'une conversation qui aurait pu débuter par « Et toi, comment vas-tu ? » Quoi de plus doux à l'oreille que cette simple question qui, partant du cœur de l'autre, nous donne l'impression de compter pour lui ? Que s'est-il donc passé pour que notre intérêt pour l'autre se soit estompé à ce point ? L'apparition du cellulaire, l'explosion des réseaux sociaux ont peut-être joué un rôle dans cette perte d'égard envers les autres. La majorité des utilisateurs sont en contact avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont aucunement obligés de se commettre envers eux. Les liens demeureront irrémédiablement superficiels. Ils peuvent changer d'interlocuteur à l'infini en tenant toujours le même discours, seul à même, sans être obligés d'écouter l'autre. Exactement comme avec mon ami au restaurant qui ne parlait qu'à lui-même. Avec ou sans cellulaire, il soliloque. Nouvelle tendance planétaire? Peut-être. Le nouveau Graal, prêt à recevoir 24 heures sur 24 des importants messages qui risquent de changer leur vie à tout moment, craignent-ils. La messagerie est devenue une extension de leur cerveau. C'est James Bond et c'est Elizabeth Salander délaissent leur bidule de temps à autre pour s'exprimer dans une autre langue codée, incompréhensible. Des onomatopées lancées en l'air comme des bulles pour revenir vite à leur machin électronique nic-nic. Et de poursuivre leur dialogue de sourds. Le robot n'est pas très loin. Ainsi s'en est allé l'art de la conversation à notre insu, sans qu'on ait eu le temps de réagir. Pouf! Disparu. Cet effondrement s'est produit brusquement, trop brusquement. 2 ans à peine. Mais quel choc! Je garde quand même espoir. Je ne suis pas prête à laisser tomber cet art qui nous relie les uns les autres humainement. La machine a des limites qu'on commence à ressentir. Si on se donnait comme mission cet été, ou cet automne, de prendre le temps d'échanger avec ceux qu'on aime, ainsi qu'avec les personnes qui apparaissent dans nos vies et dont on a tout à découvrir. Tant de bonnes raisons pour entamer la conversation par « Et toi, comment vas-tu? » Un texte de Louise Letraverse en collaboration spéciale à la presse.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon corps, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau.
dernières heures sont les plus difficiles. J'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit.
Lundi au soleil par Jérémy Kissling.
Et c'est un beau soleil pour demander comment vas-tu. Merci, merci Maurice. Alors Francine, je vous laisse la parole.
Alors on est loin du soleil quand on dit le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Oh, oh.
Voici l'origine. Cette expression signifie que l'enjeu n'en vaut pas la peine. Jusqu'au 18e siècle, le théâtre était éclairé à la chandelle. Il fallait des milliers de chandelles par soirée, ce qui représentait une somme colossale à l'époque. Si les bénéfices rapportés par la représentation n'étaient pas suffisants, ils ne couvraient même pas le prix des chandelles.
Ouf.
D'où l'expression « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». Une petite dernière
belle expression.
pour clore ma lecture de texte en ce qui me concerne. « L'argent n'a pas d'odeur ». Ce proverbe est attribué à l'empereur romain Vespasien, en réponse à son fils Titus qui lui reprochait d'avoir instauré un impôt sur l'urine. Dans la Rome antique, l'urine était collectée dans les toilettes publiques afin d'être utilisée par les tanneurs pour dégraisser la laine. Vespasien eut l'idée d'établir une taxe sur cette collecte. Critiqué par son fils, il lui mit sous le nez des pièces de monnaie en lui demandant s'il était importuné par l'odeur. Au 18e siècle, les Parisiens appelèrent leurs toilettes publiques des Vespasiennes, en mémoire de cette anecdote. Alors, c'est toujours tiré du même site, nikibar.com. Alors, il y en aura d'autres au cours des prochaines semaines, j'imagine.
Merci beaucoup, c'est très génial. Merci. Voilà, moi, je vais vous parler de la marche, qui est un excellent anti-stress. On a tous besoin de relaxer et de relâcher le stress. Faites donc d'une pierre deux coups. Bougez, plus tout en gardant un meilleur équilibre de vie. Ça vous dit? Saviez-vous qu'on produit plus de sérotonine et de dopamine? Ça, c'est les hormones du bien-être. On sécrète moins de cortisol, c'est-à-dire, ça, c'est les hormones du stress. Puis ça, les hormones du stress, ça crée un effet antidépresseur. On sécrète aussi des endorphines, ça, c'est les hormones du bonheur et des antidouleurs. Ça aide donc nos cerveaux à contrôler notre pensée. Alors, pourquoi s'en priver? Pour obtenir encore plus de bienfaits, calmant en marchant, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez, expirez profondément et lentement. Ne vous dépêchez pas. Cela vous permettra de mettre de côté vos préoccupations, évacuer le stress. Cette pause active vous fournira plein d'énergie. Quelque chose vous a mis en colère? Pourquoi ne pas sortir marcher pour relâcher la tension? Je vous le dis, personnellement, ça marche. Non seulement l'adrénaline vous fera marcher plus vite, mais cela vous aidera à vous défouler, à éliminer quelques-unes des hormones du stress qui parcourent votre corps et votre tête. Marchez en pleine conscience, c'est-à-dire concentrez-vous sur vos pas, sur votre respiration. Faites le vide dans votre tête, évitant de planifier, d'organiser, de vous inquiéter. Prenez le temps d'errer, de contempler, de flâner, pour vous, tout simplement. Profitez donc de la nature. L'une des sept astuces pour être bien dans sa tête, c'est donc de relaxer de cette façon. C'était un texte que j'ai pris sûrement dans la revue Virage. Et non, c'est la revue Le Défi Santé, pardon. Très récemment, c'est paru en septembre 2018. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Maurice, merci Francine. Et nous vous souhaitons d'être avec nous la semaine prochaine. Bonne semaine.
Bonne semaine à vous, Hélène. Et la semaine prochaine, je vous promets, je reviens à ma thématique science et technologie.
Merci beaucoup.